Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce podcast Actu SF. On inaugure une nouvelle formule avec un club de lecture. J'ai réuni trois lecteurs et lectrices émérites de science-fiction, mais pas que, aussi de fantasy, en tout cas d'imaginaire au sens large. Karine, Sylvain et Arnold, bonjour.
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 Bonsoir.
Alors, je vais rapidement vous présenter. On va commencer par toi, Karine, présidente du prix Actu SF de l'Uchronie et co-autrice du guide de l'Uchronie, mais aussi tu as un blog qui s'appelle le RSF Blog et tu es jurée du prix Planète SF des blogueurs. Sylvain, tu es rédacteur sur actusf.com depuis plus de 10 ans maintenant, peut-être 12 ou 13, j'ai plus compté, mais ça commence à faire une petite paire. Et
Bon
aussi
plus.
sur beaujume.fr. En polar, en science-fiction, en BD, enfin en histoire aussi, un petit peu tout. Et puis Arnold, toi, c'est la grande entrée sur YouTube. Tu es traducteur littéraire, tu es rédacteur cinéma chez L'Écran Fantastique. Et puis tu viens d'écrire Les Monstres Quantum, les Monstres, pardon, la série Monstres pour Quantum Explorer, qui est aussi un podcast. Alors, je vous ai réunis pour vos lectures. Vous allez me présenter un petit peu ce que vous avez lu récemment et ce qui vous a fait un petit peu triper. On va commencer avec toi, Karine. Toi, tu as lu un recueil de nouvelles. Alors ça m'a bien intéressé, de Ray Naylor. J'espère que je le prononce bien. C'est au Bélial et ça s'appelle Protectorat.
C'est ça. Alors, Ray Naylor, c'est un auteur qui est peu connu en France, mais les lecteurs de Bifrost ont eu l'occasion de le découvrir en avant-première avec trois nouvelles au sommaire dans différents numéros qui sont assez récents. Donc, c'est un auteur qui n'est pas encore arrivé par chez nous. Et en fait, ce recueil a été préparé par Hélène Hetzfeld, si j'arrive à prononcer, et Dominique Martel, sous l'impulsion d'un blogueur, Faye de Rota, l'épaule d'Orion. La particularité de ce recueil, c'est qu'il n'a pas, enfin, la particularité en tout cas dans son histoire éditoriale, c'est qu'il n'a pas d'équivalent en langue anglaise. Toutes les nouvelles qui sont ici placées dans ce recueil ont été publiées en anglais, en VO, dans différents magazines, et aucune n'a été, enfin, il n'y a pas eu de compilation, il n'y a pas de recueil qui existe en VO. Donc ça, c'est assez particulier parce que l'agencement des nouvelles permet d'avoir une cohérence sur le monde et une progression, et ça ressemble presque à un fix-up. Donc rien que la démarche de l'éditeur français est top. Moi, je souligne aussi, tant qu'on est sur la forme, l'illustration de Manchu, pardon, voilà, revoir ça. L'illustration de Manchu qui prend en fait l'Istanbul, qui est une Istanbul uchronique, alternative, dans le monde qui a été imaginé par Ray Naylor. Et elle est magnifique, cette couverture déjà, là-dessus. Donc, je parlais de l'univers qui était un peu cohérent, enfin, qui était très cohérent et qui était évolutif dans le temps. Ça raconte quoi en fait ces nouvelles de Ray Naylor? Ça se base sur une uchronie, donc c'est assez fascinant parce que c'est une uchronie science-fictive dans le sens où c'est une soucoupe volante extraterrestre, donc qui s'écrase aux États-Unis en 1938 là-dessus et qui s'écrase juste avant la guerre et qui permet aux États-Unis de récupérer une technologie extraterrestres qui leur donne une immense avance pour tout ce qui est armes de guerre et qui leur permet littéralement d'écraser leurs adversaires. Donc ça change totalement le visage de la Seconde Guerre mondiale, ça change les alliances politiques, ça change tout ça. La géopolitique mondiale en est totalement bouleversée, les soviétiques sont repoussés jusqu'à Moscou, la Chine de Chiang Kai-shek prend le dessus sur le régime communiste et Roosevelt, en bon président américain et en super-héros, est continuellement réélu avec succès et une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je crois que c'est jusque 7 fois qu'il est réélu. Donc
Wow.
voilà, ça donne une idée de la démocratie aussi à l'américaine parfois. Là-dessus. Et Istanbul, qui est le cadre d'une partie des nouvelles du recueil, c'est devenu un protectorat américain. Donc là, ça dit aussi pas mal de choses sur l'impérialisme américain. Donc ça reste intéressant. Alors ça, c'est le cadre uchronique qui donne ce petit univers, mais ça n'est pas que ce cadre uchronique, parce qu'en fait, dans les thématiques des nouvelles, on s'est très diversifié, c'est très varié, parce qu'on a des nouvelles qui explorent la mémoire, la conscience, le transfert de conscience, et donc une certaine forme d'immortalité. Il y a aussi des nouvelles une nouvelle qui explore le voyage dans le temps, une autre qui explore le voyage interstellaire et la colonisation, ou en tout cas l'arrivée sur une planète étrangère. Donc on a vraiment une diversité des thématiques assez science-fictive qui est présente dans ce recueil. Alors, le monde qui est présenté, c'est vraiment un monde qui est très différent du nôtre. Comme les progrès technologiques, ils ont été quand même hyper rapides, et on se retrouve avec des années 60, 70 qui sont totalement exceptionnelles. Alors, on a des voitures volantes qui étaient quand même le grand rêve à un moment donné de la science-fiction. Donc là, on a des vraies voitures volantes, sauf que des voitures volantes, bah, ça reste un peu dangereux parce que c'est un peu casse-gueule. On a des êtres humains augmentés, donc au départ, ce sont des prothèses pour notamment réparer toutes les gueules cassées de la Seconde Guerre mondiale là-dessus. Ensuite, on a des robots qui progressivement deviennent des androïdes qui progressivement peuvent acquérir une forme de conscience, voire même une forme de. Acquièrent vraiment cette forme de conscience. Donc, on a une technologie ici qui permet de transférer la conscience humaine dans des objets ou voire des corps hôtes là-dessus. Donc, on a des progrès de la médecine qui permettent de repousser aussi le cancer, de tout guérir, etc. Et donc, de repousser la mort. Donc, ça donne quand même une dimension assez vertigineuse à certaines des nouvelles parce que, effectivement, ça ouvre des perspectives de champs des possibles assez larges. Et tout ça, il n'y a que 14 nouvelles dans le recueil. C'est ça que je n'ai pas dit au départ, il n'y en a que 14. Donc déjà, c'est traité en 14 nouvelles, c'est pas mal du tout. Là aussi, c'est très très fort. C'est parce que ces thématiques-là, en science-fiction, on les connaît, on les a déjà entendues, on les a déjà vues, elles ont déjà été traitées. Et là où Ray Neller, il est très fort, c'est parce qu'en fait, il choisit des points de vue qui sont assez particuliers. Donc il va choisir, par exemple, le point de vue d'un jeune enfant qui se retrouve avec un père qui n'est pas son père, mais qui est un soldat, enfin qui est un ancien robot, soldat d'une guerre, avec une forme de conscience. Donc on a ce point de vue qui est un peu décalé, ça c'est intéressant. On a aussi un point de vue féminin, parce qu'on a une femme qui est une ancienne soldate qui a été dans le bataillon
Le général Eddy Lamarre.
Eddie Lamar, voilà
Je
exactement,
me suis lu le
merci.
recueil.
C'est ça, ouais. Je dis pas de bêtises, ça va?
Non, tout est très bien, sauf sur Roosevelt, dans la réalité, est le meilleur président américain. Mais
Ouais.
Ray Neller a toute latitude pour faire ce qu'il veut, hein, il n'y a pas de problème. Au contraire.
Oui, tout à fait. Mais on sent quand même une petite pointe critique derrière. Donc
Non,
effectivement,
non, je suis.
Eddie Lamar, donc on a ces points de vue-là qui sont très très différents en fait, et ça permet aussi de mettre en lumière des aspects qui sont pas forcément attendus dans une nouvelle de SF. Donc on met effectivement en valeur la partie colonialisme. On met aussi, enfin il explore tout ce qui est
Complètement.
conséquence de cet impérialisme-là, tout ce qui est conséquence des inégalités sociales, le sexisme et ainsi de suite. Franchement, c'est super, enfin, c'est super intelligent, super intéressant, super bien fait. Et c'est aussi super émouvant parce que toutes ces nouvelles, en fait, dans toutes ces nouvelles, il y a quand même une forme de. Il y a un regard qui est porté sur l'humanité qui pourrait être un regard très désabusé. Il y a un petit peu de critique, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humanité, beaucoup d'amour et de compassion. Et en fait, une forme d'espoir, moi je trouve que Ray Neller conserve cette forme d'espoir en l'être humain et à sa capacité à être meilleur, quoi, à éviter le pire là-dessus. Et ça, c'est vraiment super, super intéressant. Donc, c'est un fix-up qui est très harmonieux avec une belle progression. Qui est très émouvant aussi. Il y a du fond, il y a de la forme. Franchement, c'est super top. Donc, la partie Uchronie, c'est vraiment un prétexte à ouvrir le champ des possibles sur les thématiques de science-fiction. C'est assez vertigineux.
Ça me rappelle quelque chose. Sylvain, t'es d'accord? Une excellente lecture?
Alors, je suis d'accord avec tout ce que dit Karine. C'est un très bon
D'accord.
recueil. D'ailleurs, je ferai la chronique pour ActuSF. Je mets l'accent sur la nouvelle paire
Oui.
avec l'enfant qui a ce robot qui va jouer le rôle de père. Et c'est moi, c'est une nouvelle qui m'a bouleversé. Elle est vraiment très très bien. Non, mais on est d'accord, Karine, hein, y a pas de problème. Je défends Franklin Roosevelt au niveau historique, mais pour tout ce qui est. Non, c'est un très bon recueil. T'as très bien parlé de Ray Neller et de ce recueil.
Ouais, et
Vraiment
puis
très
alors,
bien.
sacré background le monsieur, hein, c'est ce que je regardais. Il a travaillé dans des ONG, il a exercé notamment en Russie, dans des pays russophones. Il est aujourd'hui à l'Institut de politique internationale des sciences et technologies et à l'Université George Washington. Il parle russe, turkmène, albanais, azéri, turc. et vietnamien, n'en jetez plus. Et puis il y a un roman, par contre, son premier roman de SF qui est paru en 2022, The Mountain in the Sea, et on espère fort que par
Une
exemple le
traduction.
Béal,
Oui,
voilà,
bien sûr.
pourrait le
Vivant.
traduire, parce qu'en plus il a eu un prix, il a eu le prix Locus du meilleur premier roman. Donc bon, on va dire que c'est un auteur plus qu'à suivre. Arnold, puisqu'on est dans les nouvelles, je voulais que tu nous emmènes un petit peu chez La Clé d'Argent. Alors ça me fait plaisir parce que La Clé d'Argent, c'est un petit éditeur, micro-éditeur méritant, mais qui fait des choses absolument géniales et qui a plein de pépites. Et l'anthologie que tu voulais nous présenter s'appelle 13 chevauchées dans l'Ouest étrange.
Absolument. Alors en fait, pourquoi ce choix? Pour la simple et bonne raison que La Clé d'Argent a eu l'extrême gentillesse de me l'envoyer sans même que je le demande. Ce genre d'attention me fait très plaisir. J'avais bien sûr éventuellement envisagé d'en parler dans la grande entrée, ce qui n'est pas encore tout à fait impossible, mais puisque tu m'offres cette occasion, je saute dessus tel un cabri, n'est-ce pas, pour en parler. Alors pourquoi en parler? Parce que déjà très récemment, je n'ai pas vraiment eu de gros coup de cœur sur des sorties d'actu dans le domaine de l'imaginaire. Et ce recueil arrivait à point nommé parce qu'il est en fait une force de proposition que je trouve particulièrement originale et intéressante, en plus dans le cadre de l'édition française, puisque donc en fait il s'agit d'un recueil de, comme son titre l'indique, de 13 nouvelles, écrites pour 95% par des auteurs français, pour autant que je sache, ou peut-être belge ou francophone de manière générale pour d'autres, mais il y en a moi une qui est signée par Joe Lansdale, donc qui est un auteur américain. Et par nature, le western, puisque là on parle bien sûr de western dit fantastique, qui est un genre extrêmement pulp comme ça, qui est souvent présenté dans des recueils de Weird Tales ou sur de trucs, c'est un truc extrêmement américain, qu'en fait ne fait pas du tout spécifiquement partie de notre culture, et le fait qu'on puisse se le réapproprier comme ça, je trouvais ça très curieux. Alors, mon expérience du Weird West, comme on l'appelle, c'est assez limitée, puisque je crois que tout ce que j'avais pu lire de ce genre-là, si on met de côté le name drop de la Tour Sombre de Stephen King, qui est quand même infiniment plus que du Weird West, hein, on va pas se mentir, il y avait ce recueil de nouvelles paru chez les Moutons Électriques qui s'appelait Lee Winters, Shérif de l'étrange.
Tout
Je
à
crois que
fait.
c'était ça, qui est sorti il y a un peu plus de 12, 15 ans, je crois, en France, qui était un excellent recueil des histoires d'un shérif comme ça dans l'Ouest contre des créatures dites fantastiques. Ici, 13 chevauchées dans l'Ouest étrange, c'est donc offre un panel en fait de ce genre très particulier du récit fantastique, en offrant un panel d'imaginaires extrêmement variés. Qui ne se contente pas spécialement de faire défiler des cow-boys sur une lande asséchée contre des fantômes, ce que ferait par exemple très bien Robert E. Howard dans un Solomon Kane des familles, qui pourrait presque être du Weird West, hein, quelque part. Mais ici, là, c'est vraiment tout ce qu'on peut imaginer de plus pulp et de plus assumé en termes de référence. Toutes les nouvelles sont introduite par un petit texte explicatif de la part de l'auteur, ce qui est quelque chose que je trouve toujours très appréciable parce que j'aime bien savoir à quoi l'auteur a pensé quand il s'est plongé dans un écrit, hein, qu'il soit court ou qu'il soit long. Et je ne suis pas du tout étonné que la plupart des auteurs citent en fait des influences qui proviennent du cinéma pour raconter leurs histoires. Donc bien sûr, tu as droit à du Sergio Leone, tu as droit à tout ça, qui sont des souvenirs d'enfants pour la plupart du temps, pour des diffusions qui proviennent de diffusions télévisé de l'époque, et on sent que tout ça est porteur d'une iconographie qui forcément ne peut qu'influencer les auteurs à qui on confierait ce genre de travail de rédaction. Sur les 13 nouvelles, je ne peux pas prétendre avoir été particulièrement happé par les 13, hein, c'est un petit peu malheureusement la nature des recueils de nouvelles, tout est parfois assez inégal, mais il y en a certaines qui m'ont pas forcément plus, mais au moins étonné, notamment la toute première qui ouvre le recueil, qui est signée Pierre Brulet, qui, attends que je te dise pas de bêtises, parce que bien sûr, je n'ai pas pris
Pour
de
une
notes, parce que je suis quelqu'un de très consciencieux, poignée
poignée d'épidémie.
d'épidine, voilà, la poignée d'épidine, qui en fait est une histoire de Weird West qui se déroule sur Mars, ce qui est assez intéressant, qui dès la première lecture m'a ramené à un très vieux dessin animé que je regardais quand j'étais gamin, qui s'appelait Brave Star, pour ceux qui ont un petit peu cette culture-là, où il y avait tous les archétypes du western, que ce soit
le barman à bouton de manchette, le shérif sans peur et le méchant gringo, tu vois, qui en fait étaient des archétypes repris dans un univers de space opéra à la Star Wars. Ce qui n'est pas tout à fait ce qui se passe ici. On a plus l'impression de lire Sergio Leone rencontre Ray Bradbury. Et c'est pas désagréable du tout de s'imaginer en fait les décors de la planète rouge servir de théâtre à des règlements de compte entre desperados portant des longs manteaux, quoi, que j'ai trouvé très sympa. Au-delà de ça, il y a bien sûr le Weird West est bien sûr porteur de beaucoup de mysticisme, puisque quand on pense à western, on pense cowboy, on pense pas forcément indien à côté de ça. Et il y a pour ça quelques nouvelles qui sont pas forcément vu du point de vue de l'Amérique, du natif américain, mais qui garde quand même le principe populaire du cimetière indien, par exemple, qu'on retrouve dans énormément de récits d'horreur où la malédiction est portée par une malédiction qui vient d'un cimetière indien. Et bien, il y a un des auteurs, alors je ne saurais plus citer lequel, qui se moque de ça dans une de ses nouvelles, qui l'amène très bien via un personnage un petit peu bourru, presque que tu vois très bien mâcher de la chic et la cracher à la gueule des gens. Je me rappelle plus comment s'appelle cette nouvelle. Faudrait que je te retrouve le titre. C'est une de celles qui m'a le plus marqué, qui m'avait vraiment beaucoup beaucoup plu. C'est Le sang des coulisses de Jess Kahn, qui est vraiment excellente et qui là pour le coup se focalise sur du mysticisme chinois. Puisque la communauté chinoise avait énormément d'importance dans l'expansion du Wild West, et il a réussi à amener énormément de touches d'originalité qui m'ont fait penser à, là on n'est pas sur du western, mais qui m'ont ramené un petit peu à la dynamique qu'il y avait dans Good Morning Vietnam, où on épouse beaucoup cette différence entre les cultures, avec en plus un petit côté d'un coup il y a un monstre qui arrive, donc on se croirait chez John Carpenter dans Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Il y ajoute des scènes chocs avec des scènes d'abus sexuels avec sur un pauvre gamin par une créature centenaire. Enfin, c'est des trucs qui vont très 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 loin. Et parmi celles qui m'ont énormément marqué, il y en a une qui s'appelle Le savant, le scientifique et l'Ashkénaze, qui est un hommage entièrement appuyé par l'auteur au film de Tarantino, Django Unchained, avec un personnage d'allemand un peu grandiloquent comme ça, qui fait figure de Van Helsing improvisé dans une histoire de quête initiatique avec un autre personnage de cow-boy un petit peu bourru, tout ça. Et tout ce recueil se termine par, et ça c'est très bien amené aussi, tout un pan d'études porté par l'anthologiste Mehdi Ligné, parce que c'est vrai que je ne l'avais pas forcément précisé, mais Mehdi Ligné est l'anthologiste du recueil, qui est quelqu'un qui avait beaucoup travaillé chez Rivière Blanche, il me semble, que je ne connaissais pas jusque-là, et qui décortique en fait toutes les dimensions, compris dans cette dimension-là du Weird West. Et c'est extrêmement complexe, extrêmement prenant. Moi, je ne connais pas beaucoup de recueils qui ont cette dynamique-là. De prendre le parti d'avoir un genre aussi méconnu, de le décortiquer, d'en offrir toutes les clés d'analyse afin de pouvoir mieux aborder ce recueil, parce que dans le fond, c'est pas quelque chose qui va forcément de soi pour un lectorat, comme je disais, français, qui connaît pas forcément, qui n'a pas forcément dans son ADN tous les codes du Weird West, et qui peut, en commençant sa lecture par ce dossier qui donc est en fin d'ouvrage, s'accorder toutes les petites clés de lecture nécessaires à mieux aborder ces histoires et en profiter à fond, ce que comme un imbécile je n'ai pas fait en commençant mon ouvrage. Donc certaines petites nouvelles sont passées, je suis passé un petit peu à côté du propos, et je pense que maintenant, quand j'aurai un petit peu l'occasion, je relirai celles à côté desquelles je suis passé pour essayer de me faire plaisir. Il y en a une notamment qui est écrite par Jean-Pierre Favart, via qui justement j'ai pu obtenir ce recueil, parce que j'avais parlé d'un de ses livres, ce qui avait bien plu au boss de la Clé d'Argent, qui du coup s'est dit si je lui envoyais le bouquin. Et sa nouvelle m'a pas forcément spécialement marqué. Je pense que maintenant que j'ai toutes les petites clés en tête, je vais pouvoir mieux l'aborder. En bref, c'est un recueil que je trouve osé, c'est vraiment touchy à sortir. Il y a presque que la clé d'argent qui pouvait sortir un truc pareil. Et c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais à un grand public, mais à un public en tout cas curieux, un lectorat curieux, s'ils veulent découvrir quelque chose qui sort un petit peu des sentiers battus de l'imaginaire actuel. On est à la fois dans de la fantasy, à la fois dans du fantastique, à la fois dans de la science-fiction, le tout autour d'un cercle commun qui est le western. Et je trouve ça super original et j'ai passé un moment assez agréable. Voilà.
C'est super parce que, en plus, il faut quand même saluer le boulot de Mehdi Ligné qui est toujours partant pour proposer des anthologies, pour explorer des choses, etc. Enfin, moi, j'ai souvent été en contact avec lui. Et puis, le boulot de Philippe Jeanne depuis 1987, tout de même. Enfin, je crois que c'est un des plus vieux éditeurs en activité dans une maison d'édition.
Ouais, c'est une maison d'édition qui respire beaucoup la passion et ça fait plaisir quoi qu'ils soient encore là pour nous proposer ce genre de choses quoi.
Donc ça s'appelle Très chevauché dans l'Ouest sauvage.
L'Est étrange.
L'Ouest étrange, pardon. On est remonté donc au temps du western. Et toi, Sylvain, on va aller encore avant avec le grand dieu Pan d'Arthur Machen, qui est une redécouverte. Est-ce que tu peux nous en dire un mot?
Alors moi je disais Arthur Machen, mais bon, peut-être que j'ai
Ah
pas un
ouais, je
bon
sais
accent.
pas. Peut-être c'est moi qui me trompe.
Non mais je sais pas, j'ai pas un bon accent. Bah c'est un Le Grand Dieu Pan, c'est un récit qui se passe donc qui est écrit fin 19e siècle par un auteur gallois. Et en fait c'est au début deux personnages qui se retrouvent dans Londres et qui discutent ensemble d'un autre qui a disparu et ils vont essayer de récupérer de comprendre ce qui s'est passé. Et on arrive en fait à l'histoire d'un homme qui a fait une expérience très étrange sur une jeune femme à base de magie pour qu'elle puisse voir le monde magique, et en fait elle est tombée sur le dieu Pan, et depuis en fait elle est un petit peu possédée par ce dieu, elle a été changée, et dans Londres elle devient une espèce de coqueluche de la société un petit peu décadente fin de siècle. Et bon bah à la fin du roman ça se termine pas très bien pour elle, pas très bien pour non plus pour le mari, parce que le type qui l'a voulu l'éveiller à ça est devenu son mari. C'est un roman sous des dehors de morale un petit peu victorienne, parce que ça existe, hein, effectivement, hein, c'est présent. Hein, ils étaient très refoulés sous la sexualité. Il y a l'indicible. Il y a un vertige, en fait, dans le bouquin. Lovecraft en parlait beaucoup de Mahan dans, ou bah, Arthur Mahan, je crois, dans Épouvante et Surnaturel en littérature. C'était son essai sur le littérature fantastique. Et lui, il reconnaissait sa dette. Et dans la réédition, je crois que c'est Kalidor, hein, qui l'a faite, là,
Tout à
récemment,
fait.
il y a trois ou quatre longues nouvelles qui sont jointes au grand dieu Pan. Et on voit très très bien la dette que Lovecraft pouvait avoir envers Arthur Mahen. Et les histoires sont assez effrayantes. Elles parlent beaucoup du peuple, bah, des. Comment dire? Pas des. Oui, des fées, et puis tout ce qui est caché, les lutins et tout ça. Et quand les personnages s'approchent de ce qui est donc indicible, bah on sent bien qu'ils sont au bord de la folie, comme chez Lovecraft. On voit les techniques que Lovecraft a récupérées chez Arthur Mahen. Et donc c'est assez intéressant, c'est une bonne réédition. Vraiment, Kalidor a fait un beau bouquin là-dessus. Et je trouve que c'est très pertinent de relire Arthur Mahen aujourd'hui pour comprendre un petit peu comment le fantastique et l'horreur ont pu avancer, et comment Lovecraft lui-même a pu effectivement y puiser son inspiration. Un peu comme là, récemment, le Bélial a réédité les nouvelles d'antan d'Arthur Finet, et j'ai lu. Alors voilà, je fais une digression. Et là, c'était Stephen King qui disait sa dette envers Arthur Finet dans Anatomie de l'horreur, et il y a des nouvelles d'antan qui sont vraiment, vraiment prodigieuses. Hein. Jacques Finet, c'est l'homme qui avait fait le voyage de Simon Morlaix.
Bien sûr, ce qui était merveilleux comme bouquin
Très
pour le
très
coup.
bon roman, ce voyage
Voyage
dans
dans
le
le temps.
temps. Ouais. Et là, il revient beaucoup. C'est une obsession chez lui, voyage dans le temps. La nostalgie, le passé, le glissement vers le passé. Et vraiment, les nouvelles rassemblées dans ce recueil du Bélial, c'est Pierre-Paul Bourastanti qui est à la barre, et il a fait un très très bon boulot, et les autres aussi. Il y a Hélène Colom, je crois. Et voilà, il est intéressant. Bah, Arthur Maren, j'affinais de voir un peu comment le fantastique. En plus, deux auteurs qui sont pas très bien connus. Arthur Maren a été traduit souvent, il était en livre de poche, je me rappelle, dans les 70. Jacques Finet, c'est vraiment le Simon Morlaix qu'on connaît, plus la suite, Le Balancier du Temps. Mais il n'a pas été très bien traduit au niveau des nouvelles. Et vraiment, le recueil du Bélial permet de voir, c'est un très très bon auteur de nouvelles. C'est pareil pour Arthur Maren. Ces nouvelles qui sont jointes dans l'édition Kalidor, là, au Grand Dieu Pan, on sent vraiment que c'est un très très bon auteur. Il n'a peut-être pas. Il aurait peut-être dû plus écrire. Bon, après, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais voilà, je mets l'accent sur les deux parce que vraiment, c'est pas de l'archéologie, ça nous parle encore aujourd'hui. C'est des très bons auteurs. Il faut défendre ça aussi, je pense.
Kalidor le fait bien et en plus l'objet est magnifique. Hein,
Oui, ah oui, franchement, oui. Et pareil pour le Bélial, hein, ils ont fait une très bonne couverture en plus dans Rien Police, moi j'aime bien.
Et Jacques Finet, c'est aussi l'invasion des profanateurs.
De
Voilà.
Sépulture, ouais.
Oui.
Trois grands films, enfin, non, deux grands films et un navet, mais non, c'est vraiment un très bon roman et John Siegel a fait un très bon film. Et pareil pour Philippe Kaufman. Hein.
Bon bah.
Il n'a pas envie de dire qu'il y a quatre adaptations.
Il
Non.
y a quatre adaptations.
Il y a quatre adaptations.
Ah bah dis
Je
donc.
veux qu'on parle de la. Moi, je dirais
Vas-y.
deux grands films, un film sympa et un navet. Si je dois vraiment aller par là.
Non
Est-ce
mais
qu'on parle
vas-y,
du même
hein.
navet?
Moi
Est-ce
je suis
qu'on parle du
open,
même
hein.
navet?
Ouais. On va passer, mes camarades, à la bande dessinée. Et Karine, toi, tu as choisi Dans la tête de Sherlock Holmes. Alors, c'est une BD 2019 pour le tome 1, 2021 pour le tome 2, et c'est une BD assez passionnante, et là aussi la forme est très importante.
C'est Cyril Liron et Benoît Dahan. Alors, je vais commencer par la couverture à nouveau. Donc, la couverture, c'est un profil de Sherlock Holmes hein, qu'on reconnaît très bien avec ses attributs très classiques. C'est un profil et on, en fait découpé et on voit l'intérieur de son crâne. Donc, c'est vraiment la promesse de la BD, c'est d'entrer dans la tête du détective. Et effectivement, on entre vraiment dans la tête du détective. Alors, comment est agencé le cerveau de Sherlock Holmes? Eh bien, il est agencé sous forme d'une bibliothèque qui contient donc toutes les connaissances qu'il a, notamment en criminologie, mais pas qu'en criminologie d'ailleurs, hein, tout ce qu'il a pu amasser comme connaissances tout au long de sa vie. Et à chaque enquête, en fait, il utilise ses rayonnages de bibliothèque pour faire avancer son enquête. Et il collecte en même temps tous les faits. Et il les range aussi dans ses rayonnages. Et voilà, il y a un moment, il fait des liens. Et ces liens qu'il fait, en fait, quand il confronte les indices qu'il récupère, alors quand il récupère des indices, il peut récupérer tout type d'indices, hein, mais tout ce qui est même peut être insignifiant à première vue peut avoir son importance dans la suite de l'enquête. Hein, ça, c'est un mécanisme classique de l'enquête policière. Et en fait, on voit le fil tout au long, d'ailleurs, de la BD, tous les fils, quand il se relie, quand il relie les indices, ça prend sous forme de fil. Donc, ce qui est super intéressant dans cette BD-là, non seulement c'est de rentrer dans la tête de Sherlock Holmes, c'est de voir ses mécanismes de pensée, de voir ses raisonnements, mais c'est aussi de voir comment sur le papier c'est rendu. Alors, les cases sont super denses, les pages sont super denses aussi, donc ça nécessite de s'y pencher, de prendre le temps d'explorer toutes ces cases pour pouvoir nous aussi relier les indices aussi entre eux. C'est hyper méthodique et en même temps sur la page, parfois ça peut paraître chargé, ça peut paraître un petit peu bordélique, mais ça l'est absolument pas. Mais par contre, effectivement, ça nécessite de s'y pencher et ça prend un petit peu de temps à la lecture. Après, visuellement, c'est super réussi. Les personnages, les décors, tout est soigné, tout est détaillé. L'ambiance de victorienne de Londres, elle est super bien mise en valeur. La lumière, la couleur, tout ça, ça nous projette vraiment dans l'époque, quoi. Les cadrages, ils sont pas classiques. Les découpages, ils sont particuliers. Enfin, ça foisonne de détails. Il y en a partout. On regarde. Bah, voilà, c'est un truc. C'est hyper stimulant. C'est hyper stimulant en fait. On est là à chaque phase. Waouh! Ouh! Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ouh là, faut tout regarder. Donc c'est assez génial. Et puis on voit toute la méthode. Alors c'est très fidèle au personnage de Sherlock Holmes. Ça, c'est super sympa parce que c'est pas l'adaptation d'un épisode qui existe déjà. C'est pas l'adaptation d'une nouvelle de Conan Doyle. C'est vraiment une histoire originale. Donc après, voilà, l'histoire originale, l'intrigue en elle-même, c'est une intrigue policière classique, hein, mais ça respecte les codes, ça respecte les personnages de Conan Doyle, donc ça tout va bien. Mais c'est vraiment très très original en soi. Et quand on a regardé un petit peu, pour ceux qui ont regardé la série sur la BBC Sherlock avec Benedict Cumberbatch, mais on voit très bien comment visuellement comment ça fonctionne dans sa petite tête. Et il y a un épisode où on le voit dans un palais mental. Donc le palais mental, c'est ni plus ni moins que la représentation de son cerveau et la façon dont il range des choses, et ça fait vraiment écho à cette BD. Alors, côté enquête, c'est une intrigue assez classique en fait, hein. C'est un homme qui est blessé, qui est amnésique, qui atterrit chez Holmes parce qu'il connaît Watson. On a aussi effectivement Watson. On trouve sur ses vêtements de la poudre blanche et un ticket pour le spectacle d'un magicien chinois. Il se trouve que il a disparu pendant un certain temps. D'autres Londoniens aussi disparaissent. Et à un moment donné, on arrive à avoir le ministre des colonies britanniques qui est aussi visé, et ça donne un immense complot à l'échelle du pays. Donc effectivement, Holmes doit tout résoudre le mystère, et ça va chercher vraiment dans les racines de l'Empire britannique, du fonctionnement aussi de cet empire. Et les auteurs nous montrent un petit peu la réalité de l'époque, et en nous montrant la réalité de l'époque, on arrive à avoir quand même un éclairage sur le contexte social, sur l'impérialisme, sur le colonialisme, sur le sexisme, et ça fait aussi écho à des thématiques bah, vachement actuelles en fait. Donc on parle du passé, mais on parle en même temps de notre époque maintenant par un parallèle. Donc tout ça, une fois qu'on... Alors c'est 2 tomes, ça va super vite, une BD à lire normalement, mais celle-là, elle prend effectivement un peu plus de temps. C'est super intéressant, c'est super stimulant, ça dit plein de choses de notre époque, ça dit plein de choses des époques passées, et en fait ça dit plein de choses de l'humanité en gros, hein, tout simplement. Voilà. Et moi j'ai vraiment kiffé.
C'est
Ouais,
une...
ça s'entend.
Pour moi, c'est le meilleur ajout au mythe holmésien depuis la série de Moffat, justement.
Voilà, je suis
Ah oui,
tout à fait
d'accord.
d'accord.
Bon, vraiment, pas pour moi.
Ok. Ça pose des choses, en tout cas, Arnold. Mais c'est vrai que j'ai eu plein d'échos positifs de cette duologie-là sur Sherlock Holmes. J'ai même vu des critiques qui disaient c'est trop intelligent, il y en a trop. Ouais, c'est dommage de s'en priver quand même, hein.
On n'a pas besoin de ce genre de négativité.
Non, clairement, clairement. Arnold, est-ce que tu peux nous parler de Dracula, de James Tynion 4? On en parlait avant, qu'un des peut-être un des grands auteurs de comics de ces dernières années qui a émergé.
Un des plus publiés ces derniers temps et un
Ouais.
extrêmement prometteur. Donc, pour mémoire, c'est un auteur de comics à qui on doit notamment Something is Killing the Children, qui est
C'était
une
bien ça.
excellente série d'horreur, et qui a aussi scénarisé donc une bande dessinée qui a eu un prix à Angoulême cette année, qui s'appelle The Nice House on the Lake, qui est un diptyque de science-fiction, oserais-je appeler comme ça, à découvrir,
Apocalyptique.
voilà, de post-apocalyptique, slash science-fiction, slash drame intime. Cochez la case qui vous va, mais en tout cas, c'est à découvrir absolument.
C'est génial.
James Tynion étant un incorrigible touche-à-tout, il a récemment plié pour le compte de Universal et Skybound une nouvelle version de Dracula, d'après Bram Stoker, mais plus spécifiquement d'après Bram Stoker, d'après le classique de Universal sorti en 1931 par Todd Browning, qui mettait en scène bien évidemment Bela Lugosi, qui est devenue la copie carbone de la figure du vampire dans l'imaginaire collectif. Tout ça s'inscrit dans une nouvelle sorte de collection qui est en train d'être lancée par Skybound autour des Universal Monsters. Donc les Universal Monsters, pour mémoire, ce sont les premières grandes créatures classiques du cinéma américain. Donc la plupart empruntés à la littérature anglo-saxonne gothique, donc le monstre de Frankenstein, Dracula, la momie, le loup-garou, etc. Et dans ce comics en 4 numéros, qui sortira, il me semble, au mois d'avril ou au mois de mai en trade paperback, où il les rassemblera tous les quatre, James Tynion se permet de réinventer, de réinterpréter l'histoire du film de Todd Browning. Sous un angle extrêmement personnel, en peut-être presque, oserais-je dire, sans froisser les fans du film d'origine, en l'améliorant presque, en améliorant la plupart des aspects les plus discutables, ou en tout cas ceux qui ont les plus mal vieilli, en tout cas à mon sens, enfin, moi qui suis un énorme fan des Universal Monsters, Je trouve que le Dracula de Todd Browning, c'est pas celui qui a le mieux vieilli. Hein. Si on le regarde aujourd'hui, ça reste un film qui est esthétiquement très très beau, mais qui a quand même un rythme un petit peu longuet. C'est du théâtre filmé, définitivement. Et dans lequel, en fait, certes, pour une fois, on a les droits de Bram Stoker pour les adapter sur le grand écran, ce que n'avait pas Murnau quand il l'adapte une première fois avec Nosferatu 10 ans plus tôt. Mais on se permet en fait d'adapter dans ce film davantage la pièce de théâtre qui était signée par John Balderston, qui se jouait à l'époque à Broadway, qui a lancé d'ailleurs Bela Lugosi sur les planches. Au moment de jouer le film, il l'avait déjà joué plus d'une centaine de fois. Et cette bande dessinée, cette adaptation, réduisait drastiquement les personnages du roman de Stoker, dans le sens où on oubliait Quincy Morris, le Texan, on oubliait le docteur Seward, on oubliait. On oubliait énormément de choses, on mettait beaucoup l'accent sur Dracula, sur sa première victime, qui est, enfin sa principale victime, qui est Mina Harker, et sur le personnage de Renfield, qui est joué à l'époque par un acteur complètement dingue, qui s'appelait Dwight Fry, qui est un tout premier à incarner Renfield à l'écran. Et dans cette bande dessinée, James Tynion réinterprète les personnages en changeant beaucoup les caractères. Il se concentre beaucoup sur les états d'âme de Mina, notamment après la perte de Lucy, sa meilleure amie, qui est la première vraie victime de Dracula. Il fait du personnage de Jonathan Harker, qui est typiquement un bellâtre, un peu typique dans le film. Il en fait ici un personnage complètement inutile et complètement décalé, qui n'a plus rien d'héroïque, hein, qui est pas vraiment un personnage intéressant. Qui est une espèce de glandu fumeur de cigarettes, enfin qui est vraiment l'archétype du héros désagréable de film hollywoodien, mais sans la rédemption qui ira à la fin. Ce côté de rédemption, en fait, James Tynion, et c'est une des choses les plus intéressantes et futées qu'il fait dans cette histoire, il la donne au personnage de Renfield, qui est ici vraiment la clé de voûte de l'intrigue, qui en est tout le cœur tragique et dramatique. Normalement, c'est un personnage dans le film qui surjoue, qui est pas forcément un personnage attachant autrement que par ses gimmicks. Et ici, c'est un personnage qui est vraiment comme Stoker l'aurait imaginé, c'est-à-dire plus la victime des choses qu'un protagoniste. C'est vraiment quelqu'un qui subit l'influence du monstre plus que quelqu'un qui a envie vraiment d'en être l'héritier, même si le personnage le montre dans la bande dessinée, qu'il est obsédé par Dracula et qu'il voudrait devenir un petit peu comme lui au fond. Mais est-ce que ça le rendrait vraiment heureux? Rien n'est très sûr. Quelque chose qui se passe dans le dessin pour montrer un peu cette dualité du personnage que je trouve assez génial. Si tous les autres personnages, Dracula y compris, sont presque retranscrit par le dessinateur qui est Martin Simmons, avec qui James Tynion avait écrit une série qui est aussi publiée chez Urban Comics qui s'appelle Department of Truth, que j'ai pas lu, mais faudrait que j'y jette un œil un de ces jours.
Il est très bien,
Là,
il est très bien.
eh bien, je
Voilà.
note,
Je valide.
merci d'ajouter ça. Et en fait, Martin Simmons fait un peu du photoréalisme avec tous les personnages de l'histoire. Il reprend vraiment le design tel qu'il est présenté, les visages tels qu'ils sont présentés dans le film de 1931. À l'exception faite de Renfield, qui n'a pas vraiment les traits de Dwight Fry, mais qui la plupart du temps est représenté avec un visage à moitié monstrueux, presque draconéen quelque part, avec des yeux très sombres, très noirs, presque des yeux d'insecte et un grand sourire carnassier, mais un peu crayonné, qui lui donne un côté complètement extérieur à l'histoire et presque le reflet de ce que le lecteur est censé en penser, en fait. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite la dualité totale du personnage et on comprend très vite son côté victime. Et quand ses dialogues sont lettrés dans la bande dessinée, on a parmi les plus belles cases dessinées, on sent que c'est vraiment lui le vecteur de l'histoire. C'est lui le pivot tragique de l'histoire. C'est lui l'anti-héros. Dracula en lui-même, pourquoi cette adaptation est aussi intéressante, c'est qu'elle se rapproche de Stoker, dans le sens où Dracula n'est plus vraiment un personnage tel qu'il l'est présenté dans le film de Todd Browning, qui prend l'abstraction de personnage presque tel qu'était Dracula chez Stoker, bien qu'il ait une ou deux répliques de ci, de là, mais c'est plus une présence qui plane sur l'intrigue et sur les personnages, et qui devient concrètement dans le film de Browning un personnage à part entière avec lequel on peut rester seul de temps en temps. On s'attarde beaucoup sur le regard de Bela Lugosi qui a fait bien sûr couler énormément d'encre, et pas que au fil de l'histoire. Et Tignon, lui, décide finalement d'en refaire une abstraction, puisque c'est un personnage qui, au cours des quatre numéros, n'a qu'une seule et unique ligne de dialogue, qui n'apparaît qu'à la fin, et qui n'est qu'une présence. Il n'est strictement rien d'autre. Il n'existe que par le dessin de Martine, du dessinateur. Et ça, c'était un choix assez osé. Et c'est beaucoup plus proche de ce que j'aime du roman Dracula, tel que Stoker l'a décrit. J'aime Dracula en tant qu'incarnation de quelque chose plus que comme réel personnage. Je pense que c'est ce qui fait aussi sa force 100 ans et quelques plus tard, qui fait qu'on continue à l'adapter au cinéma, parfois pour le meilleur, mais surtout pour le pire, et qui fait que c'est encore cette pierre angulaire de la pop culture. Et j'aime beaucoup ce parti pris, tout comme le fait de faire du professeur Van Helsing, là aussi qui est repris sur le personnage de Edward Van, de jouer tel qu'il est joué dans le film de 31 par Edward Van Sloan, bah, un personnage de là plus proche peut-être de ce qu'il était chez Coppola, quand il était joué par Anthony Hopkins, qui est un personnage plus, bah, plus inquiétant, plus que rassurant. Normalement, Van Helsing est ici pour être le garant d'une certaine sécurité morale très victorienne. Là, ici, c'est quelqu'un qui passe plus son temps à boire du gin au pub du coin, quoi, même s'il va être finalement le bras armé qui annihilera, comme il se doit, le vampire, plutôt que faire participer Jonathan Harker, hein, qui, je le répète, n'a absolument aucun rôle là-dessus. Et pour finir, quelque chose que je trouve extrêmement sympa et osé même, c'est que dans cette histoire, les actes de Dracula, qu'on connaît tous et qu'on espérerait voir en fait au détour des cases de cette bande dessinée, ne sont pas montrés. Par exemple, la mort de Lucie se passe d'un pieu dans le cœur et elle n'est pas ramenée d'entre les morts après avoir été mordue. Elle meurt sur une table d'opération et c'est tout. En fait, Dracula, dans cette histoire, ne se reproduit pas. Il ne transforme pas sa victime pour prétendre répandre le vampirisme à travers la société londonienne. Non, non, il tue, il mange, c'est un animal, quoi. C'est une bête. Et je trouvais ça assez intéressant de passer sous silence via des espèces d'énormes ellipses entre les morceaux, entre les numéros, les actions de Dracula. Alors qu'on ne le voit pas discuter à l'opéra avec le docteur Stewart avec Mina pour se
Ouais.
présenter et commencer. On ne le voit pas faire ça. On voit juste Mina sortir de l'opéra et dire, dis donc, ce comte Dracula, quel bel effet, quoi, quel personnage passionnant. Et tout ce qu'on peut voir, en fait, c'est une silhouette de Dracula qui est dans le fond, dans le brouillard, très dans le fog de Londres, comme ça, et qui les observe. Mais c'est juste une petite présence qui est là, dans le fond. Il n'est pas encore cette présence maléfique qui va dévorer toute leur vie, quoi. Et j'adore tous ces choix. Je trouve ça vraiment intéressant. Et c'est une vision qui prend tout ce que j'aime chez Dracula, aussi bien sa présence cinématographique que ce qu'en a apporté Stoker, au service d'une nouvelle interprétation qui se prend très au sérieux, qui est très 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 belle graphiquement. Et donc j'espère voir une version française arriver sous peu. J'ai commencé à me renseigner d'ailleurs, sait-on jamais. Mais
Ouais.
voilà, c'est une très belle découverte. Et si vous lisez l'anglais en attendant, faites-vous plaisir, parce que et que vous aimez Dracula, bien sûr, ça. Ça vaut toutes les adaptations cinématographiques de ces 20 dernières années, facilement, haut la main.
C'est fou comme c'est un personnage qui est immortel, qui ne cesse de se réinventer à travers les époques, Dracula. Et il y a encore plein de projets. Sylvain, on termine avec toi, avec là aussi une BD qui est revenue sur le devant de la scène, hein, c'est Ragnarok de Walt Simonson, qui avait déjà été publié, qui a été réédité là chez Black River il y a quelques semaines.
Alors, en fait, d'abord, j'ai très envie de lire le Dracula, hein, donc ça
Bah
parle.
ouais, maintenant.
Je t'encourage
C'est
vraiment à le
sûr.
faire.
Ah non, mais clairement. Alors, le Ragnarok de Walt Simonson, oui, il y a eu le premier tome qui a été édité en 2016, je crois, chez Glénat. Et là, c'est Black River qui a décidé de tout faire, tout éditer. Alors, il faut revenir un petit peu sur Walt Simonson, qui est un dessinateur américain de comics, qui est né en 46, je crois, de mémoire, et qui, dans les années 80, a connu la gloire en illustrant le Comic Store. Et il a complètement redéfini le personnage à l'époque. Thor avait à l'époque été conçu avec un alter ego humain qui s'appelait Donald Blake, qui était médecin. Il avait toujours des problèmes entre jongler entre son identité divine et puis son côté humain. Et Watt Simonson est arrivé, il a éliminé Donald Blake dès le premier numéro et il a plongé Thor dans le Ragnarok. Alors qu'est-ce que le Ragnarok? Pas forcément tous fans de mythologie scandinave. Le Ragnarok, c'est la fin des dieux. C'est en fait la guerre suprême entre les dieux d'Asgard. Pour ceux qui ont vu les films Marvel, c'est plus simple. Et Surtur, qui est un démon du feu, c'est l'enfer, qui décide à ce moment-là de mettre fin au règne des dieux. Alors, dans le comics de Thor en années 80, bah, Thor s'en sort grâce à l'aide de Loki, que Walt Simonson avait retravaillé, qui était plus seulement un dieu du mal, mais vraiment le dieu de la malice, plus ambigu, plus humain, plus complexe. Et Thor réussissait à éviter le Ragnarok. Et là, ce qu'on a dans mon dessiné qui sort en ce moment, c'est une mini-série qui a été faite en 2000, dans les années 2010, qui a été publiée chez IDW Publishing de mémoire, où là, notre ami Walt Simonson, qui n'est plus chez Marvel depuis très longtemps, revisite en fait le personnage de Thor et du Ragnarok, et le phénomène du Ragnarok, et en se replongeant dans la mythologie scandinave. Et on découvre à ce moment-là, dans le récit, une jeune elfe, une femme elfe, qui est mercenaire et à qui on a demandé d'aller piller une tombe où il y a un dieu, un ancien dieu, et qui est là, et avec un marteau, il faut qu'il ramène le marteau. Et en fait, quand elle y va, avec sa troupe de mercenaires, le dieu se réveille, et c'est Thor. Et c'est Thor après le Ragnarok. Donc, c'est un mort-vivant, c'est un zombie. Il lui manque la moitié de la mâchoire. Quand il se réveille, bah, il élimine tout le monde et il tue la mercenaire elfe. Mais Thor n'est pas sans sentiment. Il a le sens de l'honneur. Il reconnaît sa valeur combative et il lui promet les mourantes de veiller sur sa famille, par exemple. Et Thor veut à ce moment-là découvrir ce qui s'est passé. Est-ce que Ragnarok a marché? Et manque de peau, bah là, Walt Simonson, dans cette série-là, nous montre le monde des dieux, le monde de la mythologie scandinave, après Ragnarok. Donc Asgard a été rasé, les nains ont été massacrés, il y a très peu de survivants, il y a encore des humains, les démons de Surtur règnent sur tout l'univers, et évidemment, ils veulent éliminer Thor, qui est une espèce d'anomalie, d'incongruité. Et Thor, lui, bah, il découvre Asgard, il découvre les cadavres des dieux, de sa femme, de ses fils. Dans la mythologie asgardienne, Thor a des fils. Et donc, forcément, il fait un grand feu à la mode scandinave pour les enterrer, enfin, pour les inhumer. Et évidemment, il va affronter tout le monde pour essayer de découvrir la vérité et peut-être de renverser un peu la vapeur, parce que ce monde-là est un peu un monde cauchemardesque pour lui et pour beaucoup. Alors, Walt Simonson, c'est un très très bon dessinateur. C'est quelqu'un qui est un héritier de Jack Kirby. Donc, c'est un dessin très dynamique, très vivant. Il s'est beaucoup documenté sur la mythologie scandinave et il réussit à la rendre attractive. Parce que bon, c'est pas forcément comme ça qu'on va faire de la bonne bande dessinée à la base, hein. Lui, ça lui parle, c'est son truc. C'est déjà son truc en années 80 quand il a fait Thor. Et là, tant plus. C'est clairement aussi une suite, ou pas une suite, mais en même temps un complément à ce qu'il a fait sur le Comic Store dans les années 80, qui a servi de base pour les films Thor de chez Marvel. Et ouais, c'est très très bien fait, c'est très très bien foutu. J'attends le tome 3 avec beaucoup d'impatience. Surtout Walt Simonson, malheureusement, commence à se faire vieux, et je pense qu'il y aura peu d'autres albums de lui. Donc je recommande pour tous les amateurs de mythologie scandinave, et de comics aussi, et même de bande dessinée, parce que Walt Simonson dessine vraiment, vraiment, vraiment très bien.
Bon, eh ben,
Voilà.
je sais pas pour ceux et celles qui nous écoutent, mais du coup, moi, j'ai noté des trucs et ça me donne des envies
Ouais,
de
pareil.
lecture et de relecture. Voilà. Merci.
Ouais.
Je ne vous dis pas merci, hein, bravo. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci à toi, Jérôme, de nous avoir invités.
Hein, merci. Merci Karine, merci Sylvain, et puis
Merci beaucoup.
on se retrouvera le mois prochain pour un nouveau club de lecture sur le podcast d'ActuSF. Puis en attendant, vous pouvez aller évidemment fouiner. On a d'autres épisodes. Merci à tous et toutes et bonne journée.
ActuSF. Les podcasts.